Moonwalking. Moonwalking. Moonwalking.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal B et ce soir, c'est déjà vu l'émission du Patriarcat en mode sympa. Consacrée ce soir, on va revenir aux girl groups, hein, ces groupes de filles du début des années 60 dont les enregistrements étaient destinés aux adolescents et que des vieux messieurs écoutent encore religieusement de nos jours. Donc les girl groups ce soir, et on va évidemment affiner un petit peu le programme puisqu'il va s'agir des girl groups dont le son se fait un peu trippy, un peu trippant, pas tout à fait psychédélique, justement on va faire une petite nuance, mais on y viendra petit à petit. Alors j'ai reçu une remontrance du TQ, le CBVQPPTQ, le Centre des bons vivants qui ne se pose pas trop de questions, qui m'ont fait comprendre très poliment, parce qu'ils sont bons vivants mais polis, que je parlais un peu trop. Donc on va parler un peu moins ce soir, on va parler un petit peu moins, on va quand même présenter ce titre d'ouverture, les Blossoms avec Billy Strange pour ce Moonwalking, hein, qui est un préfigure évidemment tout à fait Michael Jackson, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien, et qui est un titre inédit, enregistré en 60. Alors les Blossoms, hein, c'était le groupe de Darlene Love, grande protégée de Spector Phil, qui a, bon, ils ont fait plusieurs enregistrements sous plein de noms un peu divers, et notamment des enregistrements avec où ils faisaient finalement des chœurs pour des musiciens célèbres. Alors c'est presque de l'ordre du jingle radio, hein, ils ont fait ça avec Al Blaine aussi, et là c'était donc avec le guitariste Billy Strange pour ce morceau particulièrement étonnant, un peu futuriste. Voilà, on va poursuivre avec une première salve qui sera dédiée très précisément à des choses pré-psychédéliques et notamment les Tamiz. Alors les Tamiz, c'est un groupe que j'aime beaucoup puisque j'en aime beaucoup le maître d'œuvre qui n'est autre que Lou Christie, grand italo-américain un peu allumé. Il a enregistré avec les Tamiz en 1963 cet incroyable single Egyptian Shumba, hein, où on a l'impression que le morceau entier chavire avec une espèce de distorsion, enfin je ne sais pas comment s'appelle même cet effet martien. À souligner que c'est l'année où sort aussi le Cléopâtre de Mankiewicz, hein, qui fait évidemment beaucoup parler. Alors c'est retour aussi au thème de Cléopâtre, de l'Antiquité égyptienne. Et il en sera question un peu plus loin dans l'émission encore de Cléopâtre autour de ces années-là, 63, voilà, c'était des années pharaoniques. Donc tout de suite les Tamiz avec Egyptian Shumba. Yeah. I'm gonna make that Les Drake Sisters à l'instant avec What Did You Do Last Night, sûrement quelque chose de pas très catholique. C'est un groupe dont on ne s'approprierait rien personnellement, si ce n'est qu'il subsiste une photographie qui n'est pas forcément d'ailleurs tout à fait... ce n'est pas forcément le groupe lui-même, mais on voit trois filles qui se ressemblent énormément, peut-être des triplés. C'est un single qui est sorti en 64 sur le label Chattahoochee, qui a sorti pas mal de choses, un label de Los Angeles qui a sorti pas mal de choses dans le registre Girl Groups. Et ça a très probablement été enregistré dans le studio Gold Star avec cette espèce de phaser continu qu'on entend d'un bout à l'autre. Alors c'est intéressant avec ces deux morceaux, c'est que c'est finalement deux morceaux assez classiques, mais où l'habillage sonore hein, est complètement futuriste. Ce ne sera pas le cas de tous les morceaux de ce soir, hein, parce que c'est du procédé assez facile, pré-psychédélique, mais voilà, la plupart des morceaux de ce soir seront des morceaux justement un peu moins classiques, un peu plus, où c'est la construction elle-même hein, qui peut évoquer quelque chose d'un peu trippy, d'un peu trippant, et parfois même accord défendant, hein, notamment c'est le cas de Ginny Arnell qu'on va écouter maintenant. Alors c'est un disque assez étonnant, Introducing Ginny Arnell, disque sorti en 64, mais je crois que le single date de 63, Dumbhead. C'est une espèce de fillette sur une photo un peu cireuse, jaunissante. On a l'impression qu'elle a 45 ans, alors qu'elle doit en avoir 25 de moins, au moins. Et voilà, c'est un album très... je pense que l'adjectif très galvaudé aujourd'hui de Lynchien lui correspondrait. Hein, une espèce d'inquiétante étrangeté émane de ce disque, hein, puisque c'est des morceaux finalement très classiques. Mais avec voilà, une espèce de petite... sur les angles, sa courbe, bon voilà. Et le morceau qu'on va écouter, Dumbhead, est carrément ahurissant, puisqu'il c'était un morceau très cruel. Voilà, alors Ginny Arnell, c'est une chanteuse qui a commencé avec Gene Pitney. Hein, c'est pas du tout étonnant, parce que Gene Pitney joue complètement dans ce registre là aussi, hein, on a l'impression que c'est du sirop alors qu'en fait il y a du poison dans le sirop si vous voulez, hein. Et donc en début de carrière, et ensuite elle a fait cet unique album en 64 avant de disparaître, enfin plutôt avant de rentrer dans le rang probablement, de devenir une mère de famille, et voilà, dont on n'entend malheureusement plus parler après. Donc tout de suite sur Canal B, Ginny Arnell avec l'incroyable Dumbhead.
Yeah.
l'incroyable Only to Other People des Cookies à l'instant. Les Cookies, c'est un de mes groupes préférés, un de mes girl groups préférés, si ce n'est mon girl group préféré. C'est un groupe avec un arbre généalogique très complexe, qui date du début des années 50, à l'époque où ils faisaient plutôt du rhythm and blues. Il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont fait des chœurs pour Tony Orlando, chanteur sirupeux mais intéressant toutefois, et ils ont été signés par Don Kirshner, donc pour la société de distribution Aldon, qui était notamment le refuge des songwriters Carole King et Jerry Goffin, qui n'étaient pas, contrairement à ce que dit le cliché, basé dans le Brill Building lui-même, mais un petit building à côté, donc Aldon. C'était pour le titillage nerd. Et les Cookies, surtout, ce qui m'intéresse chez elles, c'est qu'elles ont ensuite été juste l'année d'après, en 64, elles ont sorti un ensemble de plusieurs 45 tours absolument sublimissimes, signé par le grand Russ Titelman, qui est toujours vivant, un songwriter très discret, qui a fêté ses 80 ans il n'y a pas très longtemps, peut-être 81 maintenant, c'est un vieux monsieur évidemment, qui était très jeune à l'époque et qui avait tout compris à l'adolescence féminine, à mon avis. Enfin, je sais pas, pour ce que j'en connais évidemment. En deuxième position, c'était la délicieuse Shelby Flint. Shelby Flint, qui était une folk singeuse plutôt, une vétérante, puisque dès la fin des années 50, elle jouait déjà du folk. Joni Mitchell l'a citée comme influence et elle a enregistré plusieurs 45 tours. Elle a touché un petit peu à tout, notamment Wonderland, écrit par les frères Adrizzi, qui sont d'extraordinaires songwriters à leurs heures, puisque c'est également eux qui ont écrit le Never My Love de The Association. Ce Wonderland, enregistré dans les studios Gold Star lui aussi, arrangé par le grand Perry Botkin Jr., qu'on va retrouver et qu'on retrouve quasiment à chaque semaine, grand arrangeur de l'époque. Et j'adore ce titre avec son prépsychéisme très très discret, donc sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, qui fera florès bien sûr quelques années plus tard dans la main de plus velus guerriers psychédéliques. On va passer une troisième salle. Le côté trippy, le côté un petit peu inquiétant peut passer aussi par la production, mais une production qui sera plus crue. Une production tranchante, avec parfois un petit peu où on sent un peu presque pas le home studio non plus, ce serait anachronique, mais voilà, une production un peu sale finalement. Et c'est par cette production sale aussi que peut passer cette espèce d'étrangeté. On commence tout de suite avec cette salve avec les Utopias, un groupe très influencé par les Shangri-Las, qui, c'était un fait assez rare, contenait également un homme, puisque c'est le groupe d'un frère et d'une sœur qui s'appellent David et Julie Lasley. Et c'était le David en question qui créait les morceaux, notamment un groupe de Detroit, je crois, et notamment ce Salibad très étonnant, très très cru, comme je le disais, tout de suite sur Canal B.
Only puppy love. He told me he loved me. was real. He said it wasn't wrong. Then it happened. All of a sudden, my whole life changed.
Sally bad. Sally bad.
All of a sudden, I'm alone.
Look at that girl.
Isn't that Sally bad?
Hey, isn't she the one?
Why don't we go ask her?
Are you Sally bad?
Yes, I'm Sally, but I'm not bad. He told me he loved me. He said it wasn't wrong. He loved me that night. I'm not bad. He told me it wasn't wrong.
You went and broke my heart. Now I'm as blue as I can be.
les New Yorkaises, Goldie and the Gingerbreads à l'instant avec Little Boy. Reprise de Mary Wells, hein, Mary Wells, une des premières chanteuses d'importance de chez Motown. Morceau écrit par, co-écrit par un des frères Holland, je ne me souviens plus lequel, et André Williams, le papiche au lapin que certains d'entre vous ont eu peut-être la chance de voir en concert avec un backing band de feu dans les années 90. Donc Goldie and the Gingerbreads, pardon, je m'éloigne un petit peu du sujet, c'est le premier groupe de Jenny Aravan qui va ensuite fonder Ten Wheel Drive et pour faire des choses très très couillues. Pardon, ça fait deux fois que j'utilise ce mot très 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 moche. Pardon. De son vrai nom, Jeniusza Zelkowicz, hein, d'origine polonaise, et qui prétend avoir appris l'anglais avec des disques des Rolling Stones et de rhythm and blues divers au début des... Enfin, pas des Rolling Stones, d'ailleurs, j'ai des bêtises. Elle a tourné avec les Rolling Stones, pardon, mais d'avoir appris avec les mêmes disques qu'ont écouté les Rolling Stones, hein, très blues, tout ça. Donc, effectivement, c'est une chanteuse... c'est un des rares girl group, hein, finalement, à jouer dans un registre très, très rugueux, très bluesy, comme, justement, Mary West. Hein, qu'elles reprennent d'ailleurs sur ce morceau. Et juste auparavant, c'était un morceau, alors je n'ai pas réussi à le dater, j'imagine qu'il doit dater du début des années 60, 63, 64, enfin début-milieu, Vicky and the Van Dykes avec I Wanna Be a Winner. C'est un morceau qui est resté inédit pendant longtemps avant d'être exhumé par le label, l'excellent label Numéro Groupe, sur la compilation Basement Beehive qui est sortie il y a quelques années. Alors le problème de Numéro Groupe, hein, c'est qu'ils se font un peu dans le snobisme, genre à pas donner toutes les informations, donc on ne sait pas exactement quand est-ce que ça a été enregistré, si ce n'est que, enfin, ce qu'on sait de ce morceau, c'est que c'était sur enregistré par un certain Tommy Falcone, nom merveilleux, qui était une espèce de petit entrepreneur du New Jersey. Il a fondé un label, Cleopatra Records, un autre nom merveilleux qui fait écho à ce qu'on disait au début d'émission, et qui a également eu, sans mauvais esprit, une mort merveilleuse, puisqu'il est mort en 70 en jouant de l'accordéon sur scène. Voilà, il y aurait tout un roman à faire, un très beau film à faire sur ce groupe Vicky and the Van Dykes. On va rester dans la même zone géographique, hein, l'Amérique de l'Est, maintenant, avec une salve consacrée aux girl groups chapeautées par les Tokens ou leurs associés. Alors les Tokens, on a déjà parlé, un grand groupe de doo-wop blanc et bien plus que ça du début des années 60. Ils avaient une manière très particulière, bien à eux, de tordre un peu les règles du girl sound. Et c'était pas exactement un membre parmi eux, mais en tout cas quelqu'un qui gravitait autour d'eux, qui était Stephen Friedland, aka Brute Force, était pour beaucoup là-dedans. Hein. C'est un homme qui a assez peu composé, mais tous les morceaux qu'il a écrits sont tous très étonnants. Et notamment ce morceau des Chiffons de 65, Nobody Knows What's Going In My Mind But Me. Voilà, donc c'est quelqu'un qui documente presque la folie, finalement, des sentiments pas loin de la dépression, dans ce cadre finalement assez aseptisé, hein, finalement, sage, bon enfant, qui est le son des girl groups, quoi. Voilà, d'ailleurs on parlera après de ce qui lie tout ça au psychédélisme, cette espèce de voie parallèle. Voilà, trêve de blabla, pardon, et nous écoutons tout de suite les Chiffons. Nobody knows what's going in my mind but me.
Nobody knows what's going on.
Cette fable, une véritable fable de l'étrangeté, de l'inquiétante étrangeté, à l'instant avec Green Plant, écrite par les Tokens, qu'eux-mêmes ont chanté aussi, et qu'ils ont fait chanter par d'autres groupes de leurs écuries, et notamment cette Amanda Ambrose, alors fable de l'étrangeté, parce qu'il est question d'une plante verte dans un bureau, dans un office, hein, qui n'arrête pas de pousser, quoi qu'on fasse, même si on ne la nourrit plus. C'est très 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 beau, très inquiétant. Donc c'était Amanda Ambrose qui l'a chanté, Amanda Ambrose qui a sorti un unique 45 tours, non pas dans sa carrière solo, mais pour les Tokens, pour le label Beatty Puppy en 68. C'était une drôle de chanteuse de jazz à l'origine, qui était déjà quadragénaire à l'époque où elle a enregistré ce Green Plant. La face Amanda's Man est excellente aussi, queer aussi un petit peu, très camp, voilà. C'était également une scientologue, enfin voilà, drôle de personnage. Et juste auparavant, on a écouté un autre morceau écrit par Brute Force, Stephen Friedland, des Bittersweets, l'incroyable What a Lonely Way to Start the Summertime, qu'on a pu passer dans la spéciale Shangri-La, mais que je vous réservais bien au show pour cette émission, qui est déjà prévue depuis longtemps. Poursuivons, mes amis, poursuivons avec le groupe phare, justement, la spéciale Shangri-La. Les Shangri-La reviennent. En 66, elles ne sont pas du tout ringardisées, nos petites nénettes, puisqu'elles continuent de faire des tubes, notamment Past, Present, Future. Non, c'est pas exactement ça, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. En tout cas, elles ont changé de label en 66 également, juste après ce titre-là, qui était un petit hit, il me semble. Et elles ont enregistré pour le label Mercury deux autres singles qui sont absolument excellent aussi, toujours supervisé par Greg Shadow Morton. Et on va écouter le premier des deux, l'incroyable Sweet Sounds of Summer, dont le milieu est avec cette espèce de béance quasiment psychédélique au milieu, mais pas tout à fait psychédélique justement, puisque je voulais y venir, le psychédélisme, ces girl groups et les producteurs et arrangeurs qui les chapotent inventent une espèce de psychédélisme parallèle finalement, où il n'est pas question de drogue, il n'est pas question non plus de, surtout, principalement de contre-culture, hein, ça disparaît, hein, c'est une espèce de psychédélisme du pouvoir, une espèce de psychédélisme presque républicain finalement, sans effet, et je trouve ça assez fascinant, sans bien sûr adopter des thèses républicaines qui sont très loin de mes convictions politiques, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, évidemment. Les Shangri-Las, Sweet Sounds of Summer, Canal B.
Like it.
Longue salve s'achève avec Reparata and the Delrons, qu'on avait déjà diffusé, Weather Forecast, titre de 68. Hein, vous avez constaté forcément, parce que vous êtes malin et que vous y connaissez, qu'on s'approche évidemment de la fin de la décennie au fur et à mesure de cette salve. Juste auparavant, c'était l'incroyable Tomorrow Your Heart Will Be Lighter des Honey Limited, un groupe de filles à l'origine de Detroit qui sont relocalisées à Los Angeles pour enregistrer avec Lee Hazlewood sur son label LHI. À préciser tout de même que Lee Hazlewood n'est pas unique responsable de leur grandeur, puisque ce sont elles-mêmes, notamment la personne de Laura Polkinghorne, qui écrivent leurs morceaux, et qu'elles ont apparemment fait partie des Mama Cats, groupe donc à Detroit, qui était plutôt chapeauté là, enfin, fraternisé plutôt avec Bob Seger, et dans un registre similaire, elles ont fait un excellent single qui s'appelle Miss You, et ensuite elles vont se reconvertir et vont retenir un nouveau groupe qui s'appellera Eve, qui est excellent aussi, voilà, donc excellent groupe de nénettes. Et juste avant, Roddy Joy, moins célèbre, avec Something Strange Is Going On, son cinquième single après avoir fait des débuts à Redbird en 66, hein, très beau morceau, à la fois très élégant, un peu à la Dionne Warwick, avec cette espèce de petite touche d'inquiétude. On achève le programme avec une ouverture vers un autre continent, l'Australie, avec les Executives. Les Executives, c'est un groupe, c'est un des rares groupes de sunshine pop australien des années 60, enfin de pop pour adultes, hein, parce que évidemment que le terme sunshine pop un peu crétin n'existait pas. C'est un groupe de Sydney qui a la caractéristique assez délicieuse de porter en son sein une chanteuse qui s'appelle Carole King, donc qui est l'exact homonyme de l'autre Carole King américaine, la grande. Et ils ont enregistré un très bel album, un album sympathique, on va dire, mais je dis très beau parce que la pochette est magnifique en 68, où elles sont. Elle est entourée donc des hommes du groupe, hein, c'est surtout un groupe avec une chanteuse et un groupe d'hommes, qui sur le tarmac d'un aéroport devant un très bel avion rutilant de la compagnie Qantas. Voilà, un album très très sympathique. On va écouter Moving in a Circle, là c'est, on rentre déjà un petit peu plus dans le psychédélisme, bien sûr. On se retrouvera pour notre part la semaine prochaine avec un programme encore une fois très élégant bien sûr et très sucré et très magnifique. Et d'ici là mes petits chats, soyez cool avec votre nana et restez à l'écoute de Canal B.